Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous montre que rien ne t'échappe, que tout ce qui semble se passer, en fait, tu l'as vu venir, tu l'as même laissé venir ou tu l'as même causé. Seigneur, on ne sait pas toujours quel est le cas. On voit la violence qui s'exprime, le désordre, le chaos qui semble progresser et on te remet la situation non seulement de notre pays, mais de beaucoup de pays du monde, Seigneur. Nous sommes un pays privilégié où nous avons vécu une longue période de paix civile. Les derniers événements, c'était il y a 50 ans, en mai 68, où le pouvoir avait vacillé. Seigneur, on te fait confiance et on veut apprendre encore davantage qui tu es. Merci pour ta parole qui nous montre que tu es le maître de l'univers, tu es le maître du temps. Seigneur, tu authentifies ta parole par les prophéties qui s'y trouvent, Seigneur. Personne d'autre ne sait prédire à l'avance ce qui va se passer, mais toi, tu le fais, tu nous le montres. Et même si ceux qui ne veulent pas croire au surnaturel, ceux qui ne veulent pas croire à ta puissance le refusent, Seigneur, il est clair de par l'histoire et de par ta parole que tu as prévu des choses qui se sont passées des fois des siècles après le moment où elles ont été annoncées. Seigneur, tu nous dis de prier pour les autorités, on l'a déjà fait ce matin, on te les remet, donne-leur l'humilité, la sagesse, guide-les, Seigneur, dans leurs décisions, qu'elles contribuent au bien, et tu nous demandes de prier pour que nous ayons la paix, pour pouvoir pratiquer notre foi, Seigneur, être présent, et aide-nous à apporter l'espoir dans ces temps d'inquiétude et de désespoir. Sois glorifié dans ton Église, Seigneur. On prie pour toutes les églises de France qui se réunissent ce matin, toutes celles qui t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur, qu'elles puissent, elles aussi, se faire le relais de ton message de bienveillance, de l'évangile de paix, des merveilleuses promesses que tu nous fais, Seigneur. Aide-nous à les connaître, aide-nous à les revendiquer humblement, Seigneur, sachant que ce que tu dis est vrai. Il n'y a pas de fake news avec toi, Seigneur. Tout ce que tu dis, nous pouvons compter que ça va se passer, Seigneur. Sois béni par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Souvent, quand on demande un verset aux gens qui ne sont pas trop pratiquants, est-ce qu'ils connaissent un verset biblique? Et souvent, ils disent « Oui, aide-toi et le ciel t'aidera ». En anglais, on dit « God help those who help themselves ». Mais je suis désolé, ce n'est pas un verset qu'on trouve dans la Bible. La Bible, au contraire, nous indique que tout ce que nous pouvons faire, c'est par le nom de Christ, c'est par Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, tout est possible. Et notamment lorsqu'il est question du salut, nous, on aimerait bien penser qu'on a quelque chose à faire et qu'on mérite le salut par des actions, par des bonnes actions. Et pourtant, Paul est clair, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Ouais, c'est grâce à moi que je suis sauvé. Non, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on va voir dans notre texte une application du fait que ce sont ceux qui sont humbles et qui viennent chercher l'aide de Dieu qui la trouvent. Ce n'est pas ceux qui pensent l'avoir en eux-mêmes qui la trouve. On a un passage aujourd'hui dans Zacharie 9 qui parle de deux conquérants et on va lire ensemble les versets 1 à 8. Je lis dans la version à la colombe, la version second 21. que vous pouvez emprunter pour lire avec vous. C'est important d'avoir quelque chose pour lire la Bible ce matin, parce que c'est un texte plein d'informations. La parole de l'Éternel est au pays de Hadrak. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a le regard sur tous les hommes, comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamath, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, avec toute leur sagesse. Tyr s'est construit une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or, comme la boue des rues. Mais le Seigneur s'en emparera, il précipitera sa puissance dans la mer et elle sera dévorée par le feu. Ascalon le verra et elle aura peur. Gaza aussi, elle s'en tordra de douleur. Ainsi qu'Écron, car son appui fera sa honte. Le roi disparaîtra de Gaza et Ascalon ne sera plus habité. Un bâtard s'établira dans Asdod et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'arracherai le sang de sa bouche, les plats abominables de ses dents. Lui aussi sera un reste pour notre Dieu. Il sera pareil à un chef en Juda. Écron sera pareil à un Jébusien. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre ceux qui passent et repassent, et l'oppresseur ne viendra plus vers eux, car maintenant j'ai le regard sur elle. Amen. C'est clair ? On passe à la suite ? J'ai dit à Tonio de dire que c'était le chapitre 4 pour jeudi, de façon à ce que si ça vous intéresse et si vous venez venir, vous lisiez à l'avance le chapitre pour vous poser des questions, pour avoir des questions à poser. Et là, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont lu le chapitre 9, qui ont commencé à lire ce chapitre, parce que je suis sûr que vous auriez des questions à me poser. J'ai dit qu'il y avait deux... On va voir la seconde partie, ça sera un autre conquérant, mais ça, c'est un premier conquérant. Et là, vous pouvez vous dire, mais où est-ce qu'il est question d'un conquérant ? En fait, il n'est pas nommé, et pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut faire d'avoir un peu d'informations historiques. Si vous lisiez toute la Bible en lisant notamment le prophète Daniel, vous seriez à même de voir qu'il est question d'un personnage, mais sinon, a priori, on ne voit pas un conquérant qui marche par la puissance et par son orgueil. Et pourtant, en fait, lorsque l'on regarde les villes dont il est question, Hadrak, Damas, Hamath, Tyr, Sidon, Ascalon, Écron, Gaza, Asdod. En fait, si on regarde un peu l'histoire séculaire, c'est-à-dire pas seulement dans la Bible, on voit en fait qu'il s'agit du parcours d'un des plus grands conquérants de l'histoire humaine. Ce n'était pas Napoléon à l'époque, mais ni César, mais il s'agissait d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, Alexandre qui venait de Macédoine, donc un grec, et qui, à l'âge de 31 ans, de 21 ans, pardon, c'était en l'an 332 avant Jésus-Christ, 331, il est parti de Grèce pour aller attaquer en Asie mineure, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, pour aller attaquer Darius, l'empereur de l'empire médo-persique, des Perses. Il est allé l'attaquer et contre toute attente, avec une petite troupe, une petite armée de 35 000 hommes, qui étaient peu nombreuses par rapport à l'autre, celle de Darius, il a vaincu et il a continué sur sa lancée et il est descendu, donc là, je ne sais pas si j'ai pas projeté de cartes à projeter, mais si vous regardez à l'arrière de vos Bibles, vous aurez sans doute une image du monde méditerranéen avec la Grèce, il est parti vers l'Asie mineure et puis il est redescendu vers Jérusalem. Et donc cette grande victoire, c'était la victoire à Issus. C'est des choses que vous pouvez trouver, ou comme dirait Tonio, vous regardez Wikipédia, vous aurez plus d'informations que vous ne voulez en avoir. Et ce sont des faits historiques, et il y a donc un conquérant dont il est question dans ces 8 premiers versets. Alors c'est vrai que si vous avez lu le passage tout seul, sans l'aide de dictionnaire biblique ou d'aide ou de commentaires, on dit très bien, il y a des noms imprononçables. On reconnaît quelques noms qui sont encore aujourd'hui, la bande de Gaza. Gaza, ah oui, c'est oui. Il y a des villes qui existent, d'autres qui ont disparu. Mais c'est un oracle, c'est le terme qui est utilisé. La parole de l'Éternel est au pays de Hadrach. Une autre traduction, c'est la sentence, la parole de Dieu indiquée par la sentence de Dieu indiquée par sa parole. Ou un autre terme, ça serait la menace. La menace, ça vient du mot fardeau. C'est quelque chose de lourd qui est annoncé, et on a vu qu'il y avait d'abord on avait vu 10 visions dans le début du prophète Zacharie, qui était un encouragement pour le peuple juif à retourner bâtir le temple à Jérusalem. Ils étaient en exil à Babylone. Certes, un petit nombre était remonté et ils avaient subi de l'opposition. Ils se décourageaient, et Dieu a envoyé 2 prophètes, le prophète Agée et le prophète Zacharie, pour les encourager à continuer le travail. Dieu sait quand vous êtes découragé, et si vous êtes à son écoute, il va vous donner des motifs d'être encouragé, des motifs de persévérer dans ce qu'il vous a appelé à faire. Et ensuite, il y avait à partir du chapitre 7 et 8, ce qui est remarquable, c'est qu'on a la date exacte où se trouve le chapitre 7. On pense que c'est 2 ans après la fin des visions. C'est la 4e année du règne de Darius. C'est le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisleu. Donc on a une date exacte, et on a vu que Zacharie répondait à ceux qui se demandaient s'ils devaient continuer à faire des jeûnes ou pas. On a vu ça avec chapitre 7. Tonio a enseigner aussi le chapitre 8, qui continuait de répondre à ces questions. Et on avait terminé avec ce beau verset qui disait que ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations attraperont un juif par le pan de son habit et diront : nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. On voit que Dieu va utiliser ceux qui lui appartiennent, la façon dont ils vivent, la façon dont ils parlent du Dieu qui existe, pour donner soif à tous les autres de venir. Et ça, c'est un message qui reste pour nous. Le chapitre 9 et le reste de la prophétie de Zacharie, donc les chapitres 9 à 14, ça se passe probablement 50 ans après le chapitre 8. Et Zacharie est maintenant un vieil homme, mais il continue recevoir des paroles de l'Éternel. Et là, il explique que cette menace de l'Éternel, cette menace qui est constituée par Alexandre le Grand, qui était un non-chrétien à la base, qui veut envahir et dominer le monde entier. C'est curieux que c'était pas le premier, c'est pas le dernier, Rome, qui est ce genre d'ambition. Au lieu de se contenter de gouverner son territoire, on en veut plus. On veut tout contrôler, avec les résultats tragiques que l'on connaît dans l'histoire. Et cet homme, il est une menace pour le pays de Hadrak. C'est une région à l'est de Damas. Le mot veut dire qui est tranchant et raffiné. On pense que c'est peut-être une désignation pour l'Empire perse. Et toutes ces villes, Hadrak, Damas et Hamat, sont des villes syriennes au nord d'Israël. Et puis, il y avait, quand on descendait plus bas, donc il avait gagné à la bataille d'Issus. Issus, c'est vraiment au nord, c'est pratiquement à la frontière turque avec la Syrie aujourd'hui, sur la côte. Et il a remporté une grande victoire. Et là, Zacharie annonce des prophéties, et il parle, après avoir parlé de ces trois villes, donc la menace qui est annoncée par la parole de Dieu, elle est connue, elle s'arrête d'abord dans ces villes, et puis elle s'attaque après à Tyr. Tyr, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette ville, ce qui était célèbre dans l'Antiquité. Il dit, verset 3, « Tyr s'est construit une forteresse. » Et là aussi, comme l'histoire pour le lecteur moderne qui lit dans une langue autre que l'hébreu, comme le lecteur moderne qui ne connaît pas les derniers titres de BFM TV sur Alexandre qui envahit, qui descend, Il faut voir un peu. Et en fait, Tyr s'est bâti une forteresse. C'est un jeu de mots en hébreu. Je vois que vous riez bien. Tyr, le nom original, c'est Tsor. Une forteresse, c'est le mot Matsor. Et donc, il dit Tsor Bana Matsor. Et ça, c'est une façon de dire, en fait, ils se croient forts parce qu'ils ont construit une tour. Ils font les kaku parce qu'ils ont des murs, des murailles. Tyr était réputée comme une ville très riche. C'était une cité commerciale c'était la capitale enfin des ce qu'on appelle les Phéniciens. Les Phéniciens qui ont été des marins habiles, qui ont établi des colonies un peu dans toute la Méditerranée. Ils ont habité Marseille et puis ils se sont fait déloger par les Phocéens. C'était les Phocéens contre les Phéniciens. Je fais un peu d'histoire ce matin. On va essayer de s'élever de tous ces faits historiques pour voir les leçons que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Ils avaient amassé l'argent comme de la poussière, l'or comme de la boue. Ils étaient si riches que c'était rien pour eux que l'or et l'argent. Mais, il dit, le Seigneur s'en emparera, il précipitera sa puissance dans la mer et elle sera consumée par le feu. Le Seigneur allait frapper sa vigueur, mot à mot, précipiter sa puissance dans la mer. C'était la puissance de Tyr, c'était sa flotte maritime qui leur permettait de faire du commerce dans toute la Méditerranée et d'amasser des trésors de richesse. C'était une ville établie en deux parties. Il y avait une partie sur la terre ferme et puis il y avait une autre partie qui était sur une petite île qui était seulement à 500 mètres de la terre ferme. Mais ils avaient érigé une forteresse, la Matsor. Ils avaient fait leur tour sur l'île. Et c'était une forteresse redoutable, un double mur de 45 mètres de haut. Et ils avaient été assiégés dans le passé. Ils avaient toujours réussi à gagner, où les autres s'étaient découragés. Il y avait le roi d'Assyrie, Salmanazar, qui avait assiégé la ville pendant 5 ans sans résultat. L'empereur Nabucodonosor, comme on disait quand j'étais gosse, de Babylone, Il a essayé ça pendant 13 ans. Il n'arrivait pas, il n'a pas pu les prendre, il est reparti. Et puis là, avec cette prophétie de Zacharie, le Seigneur s'en emparera. Ça s'est passé en fait en seulement 7 mois. Alexandre a mis le siège de cette ville, de Tyr. 7 mois plus tard, c'était Tyr tombé. Et en fait, Alexandre était probablement un des plus grands stratèges de l'histoire, au même titre que César ou Napoléon. On étudie encore ses façons dont il faisait la guerre, parce qu'il avait des brillantes idées géniales pour attaquer les gens et les faire tomber. Et en fait, ce qu'il avait fait, c'était de détruire la vieille ville qui était sur le continent, et de la nettoyer complètement. Et tous les débris, il les avait mis pour relier l'île à la terre ferme. Et donc, ça faisait un passage, un remblai, sur lequel il avait établi une route. Maintenant, avec l'ensablement, quand on regarde des photos aériennes de Tyr, on voit très nettement la partie qui était sur l'île et la partie continentale. Maintenant, ça a été recouvert par du terrain. Mais à l'époque, c'était quelque chose de remarquable. Il avait pu ainsi attaquer et faire tomber, bloquer les approvisionnements et faire tomber la ville. Ce qui est remarquable, c'est que ces prophéties, elles ont été annoncées 150 ans avant que ça se passe. C'était avant qu'Alexandre ne soit là. Et les théologiens libéraux, ceux qui ne veulent pas reconnaître la puissance surnaturelle de Dieu telle qu'elle est décrite dans la Bible, disent qu'en fait, non, ces prophéties ont été écrites après les faits. C'est comme si je faisais une prophétie de Pierre disant que le 1er décembre 2018, l'arc de triomphe tomberait aux mains des gilets jaunes. Et puis que je dise que je l'ai écrit en 1950 ou en 1968. Je dis 50 ans plus tard, il va y avoir. Moi, dans mon cas, c'est parce que je connais les faits après coup. Mais quand on étudie, quand on voit les textes, on a des certitudes que ces textes ont bien été écrits avant que ces faits ne se produisent. Et comme je le disais en priant, c'est une signature de Dieu. Dans aucune autre religion, on ne trouve des prophéties qui se réalisent ainsi, à la lettre. Les promesses de Dieu sont irrévocables. Ce qu'il nous dit, c'est comme si c'était fait déjà. Et ça doit être quelque chose, quand on connaît l'histoire que la Bible nous raconte, nous décrit plus exactement, c'est pas une belle histoire, ce sont des faits qui vont se passer dans le futur. Et on peut étudier les probabilités pour que certaines choses se passent, pour que plusieurs choses se passent en même temps, les probabilités se multiplient, deviennent de plus en plus improbables, et c'est la signature de Dieu. Il nous dit ça, c'est pas Zacharie, c'est moi qui l'ai écrit, je lui ai dit, et ça se passe. Et ce qui est remarquable, c'est que le jeune Alexandre était un despote redouté. Il était non seulement génial au niveau de sa stratégie, mais il était aussi terrible au niveau de son manque de compassion. Si on s'opposait à lui, il n'avait aucune hésitation à être terrible dans ses représailles. Et notamment, on va en parler, mais Gaza, il est dit le roi disparaîtra de Gaza au verset 5. On dit même qu'il avait en fait fait traîner le roi derrière des chevaux sur des kilomètres pour montrer aux autres qu'il ne fallait pas s'opposer à lui. C'était quelqu'un de redouté. Tyr allait être consumé par le feu, J'ai toujours eu du mal quand je pense à des vieilles villes qui sont brûlées par le feu, alors qu'on voit, en fait, on voit des pierres. On se dit, mais une muraille ne peut pas brûler, quoi. À moins de chauffer à 2000 degrés, peut-être pour réduire la chaux, etc. En fait, quand on va dans ces pays, qu'on fait des visites, on s'aperçoit que les constructions en pierre, elles sont basées sur l'utilisation du bois. Il y a des pierres, mais au-dessus des pierres, on met généralement des planches pour faire une autre couche de pierre. Et donc, quand il y a le feu, quand la charpente brûle, tout s'écroule, tout tombe. Et la ville de Tyr a donc été rasée complètement. Là, en descendant, on arrive maintenant sur la partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Gaza et compagnie. Il y a des villes qui s'appellent Ascalon. Ascalon, ça veut dire le feu de l'infamie. On ne sait pas si c'est référence à la façon dont ça a été attaqué. Et elle sera dans la crainte. Gaza aussi. Gaza. Et un violent tremblement la saisira. Là, j'ai fait des recherches pour savoir s'il y a eu des tremblements de terre à Gaza. Et je n'ai pas trouvé directement un rapport avec ce verset 5, mais c'est une région fortement sismique. Il y a eu des tsunamis qui ont fait disparaître certaines villes de la côte en l'an 330 aussi. Ascalon ne sera plus habité. Verset 5. Gaza aussi se tordra de douleur, c'est ce qu'on parle de tremblement par ailleurs. Ainsi qu'Écron, car son appui fera sa honte. Écron, ça veut dire déraciner ou émigration, éradication, il n'y a plus de racines. Le roi disparaîtra de Gaza et Ascalon ne sera plus habité. Un bâtard s'établira dans Asdod. C'est-à-dire un étranger, quelqu'un même peut-être de produit d'une union illicite, et j'abattrai l'orgueil des Philistins. Donc, la destruction promise, toujours en utilisant Alexandre le Grand, de détruire ces villes qui s'interposaient ou qui étaient avant, quand on venait de Grèce, qu'on passait par l'Asie mineure et qu'on descendait vers Jérusalem, il y avait toutes ces villes qui étaient détruites de façon brutale. Lorsqu'il est dit « J'abattrai l'orgueil des Philistins », en fait, c'est Alexandre le Grand les a détruits, les Philistins, en tant que nation. Aujourd'hui, on parle des Palestiniens, c'est la même racine hébraïque que le mot « Philistin ». Mais ce n'est pas les descendants des Philistins, ce sont des gens qui viennent plutôt d'Arabie. On dirait qu'ils descendent d'Ismaël, quelque part. Mais il va, verset 7, « J'arracherai le sang de sa bouche, les plats abominables de ses dents. » Alors on se demande de quoi il s'agit. En fait, c'était pour ces gens manger des nourritures impures, ils faisaient des sacrifices à des idoles, ce qui était considéré comme quelque chose de monstrueux. Donc les abominations, les plats abominables de ces dents, ce n'est pas parce que le rôti était un peu brûlé, c'était parce que c'était des nourritures qui n'étaient pas cochères. Dans l'Ancien Testament, il y avait des nourritures qui étaient impures, qu'on ne devait pas toucher, et d'autres qui étaient OK. On s'aperçoit en fait qu'on dit que c'est un peu arbitraire et que quand on regarde l'histoire et la médecine, on s'aperçoit que c'était pour éviter que les gens ne mangent des produits qui risquaient d'amener des maladies graves. Il n'y avait pas de réfrigération à l'époque, il y avait le sel, mais il n'y avait pas de réfrigération. Le porc était capable de contenir beaucoup de bactéries et de causer beaucoup de maladies. Donc Dieu, dans sa sagesse, avait interdit à son peuple d'en manger. On sait que dans le Nouveau Testament, toutes ces restrictions alimentaires ont été levées. Et donc, vous pouvez manger des saucisses aujourd'hui. Mais cela, c'était quelque chose qui devait être détruit à l'époque, suivant la loi. Et en fait, Dieu utilisait cet empereur païen pour arriver à ses fins. Lui aussi, verset 7, lui aussi sera un reste pour notre Dieu. Il sera pareil à un chef en Juda. Écron sera pareil à un Jébusien. Là, ce qu'il est, il est question de la grâce de Dieu. Vous allez me dire comment on peut voir ça. En fait, c'est la référence aux Jébusiens. Les Jébusiens, c'était les habitants originaux de Jérusalem que David avait conquis, et il avait donc établi la ville de Jérusalem dans la capitale des Jébusiens, mais il n'avait pas détruit les Jébusiens, au contraire, il les avait assimilés, ils étaient venus à la foi en Christ. Et de la même façon, Écron, ces gens qui étaient déracinés, ils vont devenir des chrétiens, ils seront comme un chef en Juda, donc ils seront comme une autre tribu, ils resteront pour notre Dieu. Parenthèse. Et puis, je camperai autour de ma maison pour la défendre comme une armée, contre une armée, contre les allants et venants, contre ceux qui passent et qui repassent, et l'oppresseur ne viendra plus vers eux, car maintenant j'ai le regard sur elle. Dieu se soucie de ses enfants, il s'occupe, il les regarde. Si on leur fait du mal, c'est comme si on touche à la prunelle de ses yeux, il réagit. Ce qui est remarquable, et là aussi l'histoire officielle, non biblique, corrobore tous ces faits. Et il y a notamment un passage par un dénommé Flavius Joseph, le grand historien de cette époque. Il a écrit un livre qu'on appelle les Antiquités judaïques ou Antiquités juives, où il décrit l'histoire de Juda, d'Israël à l'époque, même si lui-même n'était pas croyant. Il a décrit avec force détail des faits historiques, et en fait, je vais résumer, j'ai le texte, là, on peut trouver le texte de ce Flavius Joseph, vous faites Flavius Joseph Antiquité juive, et vous pouvez voir le PDF, vous pouvez voir tous les chapitres, toutes les descriptions. Et il s'est trouvé que le grand prêtre était très inquiet, donc le chef religieux de la ville, il était très inquiet parce qu'il savait que Alexandre le Grand arrivait sur Jérusalem. Alexandre le Grand arrivait sur Jérusalem, et le grand prêtre avait soutenu Gaza contre Alexandre le Grand. Donc il s'attendait à prendre la pleine colère d'Alexandre le Grand. Et ce grand prêtre est sorti avec les prêtres et la foule des habitants, et puis il a décidé d'aller à la rencontre d'Alexandre, de faire un défilé. Un joli cortège digne, il avait mis ses vêtements de parade, ils étaient revêtus de leur robe de lin, le grand prêtre était dans son costume violet tissé d'or, coiffé de la tiare surmontée de la lame d'or sur laquelle était écrit le nom de Dieu. Il s'avança seul devant le Alexandre. Et à la surprise de tous les officiers d'Alexandre, celui-ci est descendu de son cheval. C'était le beau cheval blanc d'Alexandre. Il est descendu de son grand cheval et il s'est agenouillé devant le grand prêtre. Et ses officiers se sont dit, il a pété les plombs, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors ils lui ont demandé, mais pourquoi, maître, te mets-tu à genoux, te prosternes-tu devant le grand prêtre des Juifs ? Il a dit, ce n'est pas devant lui que je me suis prosterné, mais devant le Dieu dont il a l'honneur d'être le grand prêtre. Et puis il explique qu'en fait, il a eu un songe, Alexandre a eu un songe, et que dans ce songe, il voyait un homme qui ressemblait au grand prêtre exactement comme il le voyait de plein visu, de ses yeux, et qu'il avait compris qu'on lui disait de respecter cet homme, de ne pas l'attaquer, et que s'il le faisait, s'il honorait le Dieu que ce prêtre servait, Dieu lui donnerait la victoire sur les Perses. Il me conseillait, c'est le texte de Flavius, il me conseilla de ne pas tarder, de me mettre en marche avec confiance, lui-même conduirait mon armée et me le livrerait l'Empire des Perses. Aussi, n'ayant jamais vu personne dans un costume pareil, aujourd'hui que je vois cet homme, je me rappelle l'apparition et le conseil que j'ai reçu en rêve. Je pense que c'est une inspiration divine qui a décidé mon expédition, que je vaincrai donc Darius, l'Empire des Perses, je briserai la puissance des Perses et mènerai à bien tous les projets que j'ai dans l'esprit. Dieu agit comme il veut. Il peut susciter un rêve chez un conquérant redoutable qui fait que la ville de Jérusalem ne va pas être détruite. Il dit, mais attends, j'ai vu ça en rêve. Je me rappelle, ah oui, le rêve disait, si tu honores le Dieu de ce que cet homme sert, Dieu sera derrière toi. Dieu agit. On peut penser que, justement, cet homme, Alexandre le Grand, c'était quelqu'un qui avait des ressources incroyables personnelles, et qu'il pensait que « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est un peu l'idée que tu fais ton truc, tu demandes à Dieu de bénir et puis ça passera. Quoi, hein. Non, en fait, lui-même, il s'apercevait que c'était Dieu qui lui permettait de faire ce qu'il faisait. Combien nous sommes fous lorsque nous pensons que nous arrivons à nos fins parce que nous avons des dons. Qu'est-ce que vous avez comme don que vous n'ayez pas reçu? De quoi vous vantez-vous alors? Nous dit la parole. Il avait réalisé qu'il avait besoin de l'aide de Dieu dans son entreprise, dans son expédition. Et là aussi, pourquoi est-ce que Dieu voulait aider cet homme à vaincre les Perses? On pourra demander quand on sera de l'autre côté de l'éternité, les raisons, interviewer les gens, etc. Mais c'était pour la préservation de Jérusalem. Jérusalem a été ainsi préservée d'autres agresseurs. L'oppresseur, je camperai autour de ma maison. La maison, c'était le temple qui avait déjà été construit depuis plusieurs années, presque 40-50 ans. Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre ceux qui passent et repassent. L'histoire de Jérusalem est une histoire incroyable au niveau militaire. C'était le point de passage de toutes les armées qui se battaient dans le monde, entre trois continents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe. C'est une histoire jusqu'à maintenant. On voit aujourd'hui que c'est encore là-bas que ça se passe. On voit des événements à la télévision, à part les gilets jaunes, c'est anecdotique par rapport à ça, mais on voit des trucs géopolitiques, on voit la carte du Moyen-Orient, puis on regarde, on tombe sur la carte à l'arrière de votre Bible, et vous dites, tiens, c'est encore la même carte que celle que j'ai vue sur... Pourquoi c'est là que ça se passe? Jérusalem, c'est là que Dieu a choisi souverainement. Il va revenir là, on a des prophéties par ailleurs. Il a donc, Dieu lui-même surveille, c'est lui qui veille sur vous, pour la défendre contre une armée. L'oppresseur ne passera plus près d'eux, car mes yeux maintenant sont fixés, j'ai le regard sur elle. Ça, c'est le premier conquérant, Alexandre. Et on voit la façon remarquable, et ce qui est un peu surprenant, c'est que si vous avez un commentaire ou si on vous explique un peu que ça, il y a un personnage qui est partout là, mais qui n'est pas nommé. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est intéressant parce qu'en fait, il avait un problème. Il était alcoolique. Et qu'en fait, l'histoire dit qu'à l'âge de 32 ans, il est mort, il s'est suicidé parce qu'il était complètement alcoolique. Il n'arrivait pas, il pouvait contrôler des empires, mais il n'arrivait pas à se contrôler lui-même. Quelle leçon pour nous tous. On peut avoir une force qui est redoutée dans le monde entier, mais la bête la plus difficile à dompter, c'est moi. C'est mon ego, c'est mes pulsions, c'est mon péché, c'est ma vieille nature. Et ça, il n'y a que Jésus-Christ qui peut la mater. Alors justement, ça tombe bien, puisqu'on arrive au verset 9. On va lire ensemble. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Je supprimerai les chars d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à moi, à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance, aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. En effet, je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'une flèche, et je soulèverai tes fils Sion contre tes fils Grèce, je te rendrai pareil à l'épée d'un héros. L'Éternel apparaîtra au-dessus d'eux, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette, il s'avancera dans l'ouragan du sud, l'Éternel, le maître de l'univers, les protégera. Ils dévoreront, ils écraseront les pierres de la fronde, ils boiront, ils seront bruyants comme s'ils étaient ivres. Ils seront pleins comme une coupe, comme les angles de l'autel. Ce jour-là, l'Éternel, leur Dieu, les sauvera comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème. Ils brilleront dans son pays. Oh, quel est son bonheur, quelle est sa beauté. Le blé fera prospérer les jeunes gens et le vin nouveau les jeunes filles. Amen. Le meilleur commentaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. Et ça tombe bien parce que le verset 9, il est cité au moins deux fois dans les évangiles, dans Matthieu 21:5 et dans Jean 12:15, pour décrire l'entrée triomphale de Jésus qui, et ça c'était annoncé, c'était 500 ans avant la réalisation de la prophétie de Zacharie. On peut regarder rapidement Matthieu, si vous voulez vous y tourner. C'est juste un peu plus loin sur votre droite. On peut lire le chapitre 21 à partir du verset 1. « Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète, il n'est pas nommé, mais c'est le prophète Zacharie, avait annoncé. Ésaïe avait aussi parlé de ça. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule étendit les vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus s'écriait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Ça veut dire « Dieu sauve, sauve donc. » Voilà, donc c'est la réalisation, on peut voir ça aussi dans Jean, parle de la même réalisation de cette prophétie. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse, c'est bien précisé. On a parlé du beau cheval, du beau destrier d'Alexandre le Grand. Lui, Jésus, il vient sur un ânon. Quand Jésus fait ça, l'âne était devenu la deux chevaux des Juifs. C'était pas avec le roi Salomon qui avait fait venir les chevaux, qui avait importé les chevaux d'Europe en Israël, le cheval était devenu la monture d'un roi, d'un personnage glorieux. Et l'âne était plus utilisé pour l'agriculture, c'était moins glorieux. Mais dans l'Ancien Testament, les prophètes montaient sur des ânes, c'était à l'époque, c'était un animal qui était prisé pour les gens glorieux. Mais là, il est dit, il est humble. Jésus, c'est le contraire d'Alexandre. Il est venu plein de puissance contrôlée. Il était humble et doux de cœur. Et il a remporté une victoire éternelle à la croix. C'est la fille de Sion, c'est Sion, encore une fois, c'est un autre nom pour la colline, une des collines sur laquelle Jérusalem a été fondée. Là, fille de Sion, c'est le peuple juif. Réjouissez-vous, vous son peuple, fille de Jérusalem, voici le roi qui vient à toi, il est juste. Il est la justice, ça veut dire qu'il fait régner la justice et il est victorieux, il protège. Il est humble et monté sur un âne. Le petit d'une âne, c'est une façon de dire que oui, il est bien, la prophétie s'est bien réalisée lorsque les évangélistes recitent ce verset. Et puis, la prophétie, je l'évoque à chaque fois qu'on parle de prophétie, elle est un peu comme lorsque on regarde des montagnes au télescope, tout s'aplatit. On voit la première rangée de montagnes au même niveau que la deuxième ou la troisième. Mais en fait, lorsqu'on part en randonnée, on s'aperçoit que le but, en fait, il est pas tout de suite là. Il y a d'abord un premier sommet, et puis on doit redescendre, et puis on doit remonter. Et souvent, les prophéties, c'est comme ça. On a une première réalisation plus ou moins immédiate. Là, c'était la réalisation de Jésus qui allait arriver, sa première venue, comme le Messie souffrant, comme le serviteur plutôt, qui allait souffrir pour les hommes. Et puis, du passage 9 à 10, tout est télescopé. En fait, entre le 9 et le 10, il se passe des milliers d'années. C'est l'âge de l'Église. Il est venu une première fois et il va revenir une deuxième fois. C'est le retour de Jésus-Christ à la fin des temps, c'est là que ces prophéties vont se réaliser, parce que de toute évidence, elles n'étaient pas encore réalisées. Je détruirai les chars d'Éphraïm, les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas quelque chose, on voit pas encore Dieu qui domine le monde, et on voit pas que les nations soient encore en paix, malheureusement. On voit que même chez nous, c'est encore la tendance à la guerre. Et puis, il ajoute, pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Alors ça, c'était une réalisation, il y avait une réalisation immédiate. Il y avait encore des gens qui étaient à Babylone. La fosse où il n'y a pas d'eau, ça fait penser à Joseph dans la Genèse qui était jeté dans une fosse. Et puis, c'est aussi tous les captifs du péché. C'est tous les captifs dans le futur. Je retirerai tes captifs, retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je les déclare, je te rendrai le double. La forteresse, ça peut être aussi le Messie, la puissance du Messie, la force du Messie. c'est pas la Matzor de Tzor, c'est la vraie force de Dieu en Jésus, captif plein d'espérance. Donc il y avait à l'époque, il y avait une réalisation pour ceux qui étaient à Babylone qui pouvaient revenir, mais c'est un merveilleux titre, prisonnier ou captif de l'espérance. C'est traduit différemment au verset ici, c'est le chapitre prisonnier plein d'espérance. En tant qu'homme issu d'Adam et Ève, nous sommes des pécheurs. Nous sommes prisonniers de notre vieille nature. Mais, par la grâce de Dieu, nous sommes prisonniers en fait de l'espérance. C'est un titre très poétique, j'aime bien considérer que je suis prisonnier de l'espérance. Je suis prisonnier, mais j'ai quelque chose de plus grand encore que mes péchés habituels, que mes conditions présentes. Ça peut être ce que vous voulez, ça peut être votre maladie, ça peut être l'oppression politique. Vous êtes prisonnier peut-être de ça, mais derrière tout ça, il y a l'espérance qui englobe tout ça, l'espérance en Christ. Et au final, comme Paul disait, je suis prisonnier de Christ, quand il était en prison en Grèce ou à Rome, on est prisonnier, nous, de l'espoir que nous avons en Christ, de l'espérance. Ce n'est pas un vague espoir, on est sûr. Il faut regarder au-delà de nos conditions et nous tourner vers Christ. Prisonnier de l'espérance, aujourd'hui encore, je te déclare, je te rendrai le double. Ça, c'est un concept qu'on trouve dans Ésaïe 61:7, on n'a pas le temps de s'y tourner, mais le fait que ce que vous souffrez, Dieu vous le compensera plus que... Il vous donnera plus que le double de ce que vous avez pu souffrir. C'est difficile à quantifier, je suis d'accord avec vous, mais Dieu, il n'est pas radin. Quand il bénit abondamment. Et ça fait partie de cette vision que nous devons avoir. Nous sommes prisonniers d'espérance. Nous sommes prisonniers de quelqu'un qui bénit au-delà de ce qu'on peut penser. Il amène la paix. Il parle de « Je soulèverai tes enfants au Sion », c'est donc les Juifs, « contre tes enfants au Javan ». Ça, c'était la Javan, c'était un terme pour désigner la Grèce. J'ai oublié de signaler que le grand prêtre avait montré à Alexandre le Grand le livre de Daniel qui parlait des conquêtes que Alexandre le Grand allait réaliser. C'était le léopard dont il est question dans Daniel 8. C'est incroyable. Et puis donc les versets 14 et 15, « L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra » Et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du Sud. L'Éternel, le maître de l'univers. On nous rappelle à qui on a affaire. Le maître de l'univers. C'est pas le grand empereur grec ou le grand empereur perse. C'est le maître de l'univers. Son royaume, il est au-delà. Il a tout créé. Il les protégera. Ils dévoreront. Ils écraseront les pierres de la fronde. Ils boiront. Ils seront puissants, bruyants comme s'ils étaient ivres. Ils seront pleins comme une coupe, comme les angles de l'autel. Ça, c'est des victoires éclatantes contre la puissance grecque. Après, il y a eu des épisodes dans la période entre les deux testaments. Il y a une période de 400 ans où il n'y a plus de messages des prophètes. Mais on sait que c'est là qu'il y a eu les descendants d'Alexandre. Il y avait quatre dynasties qui se sont partagés le monde du Moyen-Orient de l'époque. Et il y en a un en particulier qui a été terrible, c'était Antiochus Épiphane, qui est venu conquérir Jérusalem, qui a désacralisé le temple en tuant des cochons sur l'autel, le cochon qui était l'animal impur par excellence, sur l'autel des sacrifices dans le temple à Jérusalem. On parle de l'abomination des abominations. C'était Antiochus Épiphane, qui lui-même est une préfiguration de la personnalité à venir de l'antéchrist, de l'antichrist. Et ça va être la victoire pour le peuple de Dieu. Dieu va gagner à la fin. Et eux, ils avaient à lutter contre les pierres de la fronde, et eux, ils seront les pierres d'un diadème qui brilleront dans le pays, verset 16. Oh, quelle prospérité! Quel est son bonheur? Quelle est sa beauté? Le blé fera prospérer les jeunes gens et le vin nouveau les jeunes filles. Pas de publicité pour rien du tout. Mais ça, c'était encore une fois, c'est le blé, le vin, c'était pas considéré comme des sources de péché. Au contraire, c'était une source de prospérité matérielle. Si on peut avoir une petite maison avec son jardin aujourd'hui, voilà ce qu'on dit. Mais à l'époque, c'était avoir du blé et pouvoir de la vigne pour pouvoir faire du vin et vivre tranquille et heureux. Et il y avait de la beauté qui était en attente. Et tout ça, c'est Zacharie qui nous dit ça. Et c'est des années, des siècles avant que ces choses se réalisent. Et toute cette partie, à partir du verset 10, il y a encore des réalisations immédiates, mais on se projette vers la fin des temps. Paul nous dit qu'elle est arrivée sur nous, la fin des temps. Alors c'est vrai qu'on peut dire on est plus proche de la fin des temps qu'on était hier ou avant-hier. Mais ça va très vite, ça va très vite. Et l'encouragement, c'est de ne pas compter sur nous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Non, eux, ils se confiaient complètement à l'Éternel. C'est l'Éternel qui avait les yeux sur eux et qui venait les aider. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien du tout, on laisse Dieu faire, pas besoin de travailler les examens. Je prie, je jeûne. Non, on a une responsabilité, mais en fin de compte, c'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui résout les problèmes, c'est Dieu qui nous entoure, qui nous fait prisonniers de son espérance. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette réalité historique qu'on peut vérifier en voyant l'histoire profane, l'histoire du monde, telle qu'elle est décrite par des historiens non chrétiens. Mais Seigneur, on est admiratif, on te remercie pour ces prophéties qui authentifient ta parole. Et si tu dis la vérité pour ces faits historiques, pour ces réalités spirituelles, Seigneur, c'est aussi la vérité. Tout ce que tu nous dis dans ta parole est la vérité, Seigneur. Aide-nous à la savoir, à le comprendre. Et donne-nous soif de lire, de comprendre, de rechercher ce que tu nous dis dans ta parole. Merci pour ces prêtres qui connaissaient ta parole, qui cherchaient, qui voyaient comment tu réalisais tes promesses, Seigneur. Aide-nous à faire de même. Sois béni, Seigneur. Merci parce que tu es venu une première fois, Seigneur. Nous allons célébrer à Noël. Tu es venu. Tu es venu de façon humble. Mais en même temps, tu étais plein de puissance contrôlée, Seigneur. Tu t'es incarné comme un bébé, Seigneur, qui n'intimide personne. Seigneur, aide-nous à partager le message de Noël en cette saison, Seigneur. À faire connaître l'espérance qui nous entoure au-delà des circonstances immédiates, Seigneur. Sois béni, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.